Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue dans l'épisode 20 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Aujourd'hui, je vous amène en immersion dans une famille hollandaise d'adoption. Ça faisait quelque temps que l'on n'était pas parti hors de nos frontières au travers d'un épisode. À l'heure où les voyages sont proscrits, je vous propose d'aller découvrir comment se passe un parcours de PMA dans un pays du nord de l'Europe, et plus particulièrement en tant qu'expatrié dans l'état où l'on entreprend ce chemin vers la parentalité. Rien d'exotique en soi, mais pourtant, je vais vous parler d'un pays qui n'est pas un pays de première intention dans nos parcours. Il s'agit des Pays-Bas. Hélène est française, sa femme Sania est yougoslave. À mon micro, Hélène nous raconte leur parcours en tant qu'expatriée dans ce pays qui nous semble à nous tous très précurseur en matière d'accès à la PMA. Elles ont pleinement conscience de cette chance qu'est la possibilité de pousser la porte d'une clinique en bas de chez elles pour accéder à son désir d'enfant. Sans résumer leur parcours uniquement à cette opportunité, tant il est vital de prendre conscience que malgré un accès simplifié, nos trajectoires vers la parentalité restent semées d'embûches, Hélène aborde aussi et surtout les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui à faire inscrire leur deuxième fille à l'état civil français. Le point dur réside dans la reconnaissance de la fille biologique de Sania comme étant aussi celle d'Hélène. Je ne sais pas vous, mais moi je suis curieuse de savoir comment l'état français peut juger qu'un document, tel qu'un acte de naissance établissant une filiation déclarée et actée par l'état civil d'un pays européen, peut ne pas être recevable et donc refuser la transcription pure et simple. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode d'Hélène et Sania et je vous retrouve en fin d'épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement.
Avec plaisir.
Aujourd'hui, je te reçois à mon micro parce que tu es venue vers moi par le biais d'un message Instagram en me proposant de me parler d'un pays qu'on n'a pas encore abordé du tout sur nos enregistrements, et c'est un pays qui est loin d'être un pays de première intention, alors qu'en fait il est très accessible pour nous Français. Est-ce que tu peux me dire de quel pays il s'agit et surtout de quel pays tu m'appelles, enfin on s'appelle, et me faire une petite présentation de ta famille?
Bah oui, bien sûr. Donc moi je t'appelle des Pays-Bas. C'est un pays en France qui est assez méconnu, je pense, parce que pendant qu'on fait nos études, on parle souvent du Benelux. Mm-hmm. Et donc, tous les gens connaissent la Belgique, mais les Pays-Bas, des fois, un peu moins.
Complètement. Et alors, est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta famille?
Oui. Donc, Hélène, j'ai 42 ans et je suis en couple avec Sania. Mm-hmm. On est en couple depuis 18 ans. On a deux petites filles.
Et, d'accord.
On vit aux Pays-Bas.
Vos petites filles sont nées aux Pays-Bas?
Ouais, alors bon, peut-être que je vais te dire où j'ai rencontré Sania parce que c'était pas aux Pays-Bas.
D'accord, alors on va commencer par votre rencontre. Ouais. Alors, du coup, comment vous vous êtes rencontrés?
Alors, on s'est rencontrés, donc moi, suite à la fin de mes études, j'avais vraiment envie de partir à l'étranger pour parler anglais en fait. Je m'étais jamais vraiment vue vivre en France. Donc, j'ai pu rejoindre un cousin à moi qui était parti en Irlande. Et donc, je l'ai rejoint et ça m'a trop plu.
L'Irlande, c'est clair.
L'Irlande, c'est top.
C'est chouette.
Ouais. Et donc ça, c'était en fin 2001. Donc ça m'a plu. J'ai rejoint mon cousin là-bas pour un mois, donc pour visiter un petit peu. On avait un copain en commun qui travaillait chez UPS. Mm-hmm. Et chez UPS, il faisait pas mal de turnover, en fait. Il y avait beaucoup de gens tous les mois qui étaient embauchés. Et il m'a dit, ouais, pourquoi tu postules pas? On cherche tout le temps des gens, machin. Donc, je dis, ah, pourquoi pas?
Bonne idée.
J'ai postulé, j'étais prise et ils m'ont dit, ben, tu peux commencer en janvier. J'étais trop contente.
Donc, du coup, tu étais partie pour rester plus d'un mois.
Voilà. Donc, je suis quand même rentrée en France, récupérer mes affaires, ma voiture et dire à mon papa, bon, ben, au revoir, je pars en Irlande. Voilà, c'était un petit peu l'occasion de couper le cordon et de partir et de vivre un petit peu cet esprit auberge espagnole que j'avais envie de vivre à l'époque.
Oui, comme nous tous, je crois, en sortie d'études.
Voilà, ben, c'est comme ça que j'ai rencontré Sania, en fait, parce qu'on faisait de la coloc.
D'accord, donc elle était en Irlande.
Ouais, elle arrivait juste après moi, chez UPS aussi. Donc moi, je travaillais pour les francophones, donc pour la France et la Belgique francophone. Mm-hmm. Et elle venait des Pays-Bas. Elle travaillait donc pour la Belgique néerlandophone. Et on s'est retrouvés en fait à vivre ensemble dès le début, parce qu'on était en coloc.
Oui, du coup.
Parce que moi, j'avais refusé d'habiter avec des Français pour pouvoir parler anglais le plus possible. Donc j'étais avec deux Hollandais, dont Sania, et deux Espagnols. Donc ça s'est fait comme ça, petit à petit, on travaillait dans la même boîte, et de fil en aiguille, ben voilà.
D'accord. Et initialement, vous étiez toutes les deux célibataires ?
Alors moi, je sortais d'une relation un peu toxique en France avec une fille qui n'assumait pas du tout son homosexualité.
Oui.
Moi, je venais d'une famille assez catho, on est cinq enfants, bon, personne n'a trop abordé le sujet, je pense qu'ils s'en doutaient parce que j'étais un peu garçon manqué et que... Bah, j'étais avec cette fille assez souvent, et très souvent, pendant 6 ans. Et bon, ils nous considéraient plus comme des très bonnes copines que d'être un couple.
Oui, des fois, quand on ne met pas les mots sur les choses, les gens ne voient rien.
Voilà, on avait la même passion pour le tennis, donc notre vie, ça tournait autour du tennis tout le temps. On jouait, on partait faire des tournois, on partait en vacances ensemble, on était tout le temps collés l'une à l'autre. Mais c'était assez toxique, donc c'est un peu pour ça aussi que je suis partie en Irlande pour vraiment me détacher de ça. Voilà, je suis retombée assez vite amoureuse.
Du coup, et alors, t'es restée combien de temps en Irlande avec Sania?
Avec Sania, on est resté un peu plus d'un an. Le boulot, il était vraiment difficile chez UPS, c'était vraiment en mode robot, quoi. C'était du call center, donc c'était pas top.
Oui, non, c'est clair.
Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ce boulot-là. Et après, bon, on s'est dit au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Donc on avait envie de repartir, donc on s'était dit peut-être la Belgique, parce que pour l'une et l'autre, c'était un pays qu'on imaginait bien. Parce que moi, j'avais pas du tout envie de rentrer en France, et puis Sania parlait pas le français, donc ça me paraissait un peu compliqué. Et puis, elle a eu la chance avec UPS de pouvoir se faire muter.
Ah oui, cool.
Donc, d'avoir un boulot tout de suite du côté d'Amsterdam.
D'accord, donc finalement, ça a été la Hollande.
Voilà. Donc, on est reparti ensemble. On s'est séparé un petit moment parce que c'était l'été 2003, donc l'été de la canicule. Là. Donc, on est rentré en via la France, elle est partie et je l'ai rejoint au mois d'août, je crois.
D'accord, ok.
Entre mai et août, on était séparés, donc je me tâtais un peu parce que c'était une grosse décision à prendre. Bon, même si je l'aimais et que je savais que je voulais être avec elle, j'avais besoin d'un petit temps pour moi et me poser et refaire le point. Et donc, je l'ai rejoint en août à Amsterdam.
Que tu as donc découvert.
Et j'ai découvert Amsterdam et ça m'a... Enfin, j'ai adoré.
Bon, en même temps, Amsterdam... Bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est tellement... Enfin, moi, c'est une ville que je trouve reposante, conviviale. Enfin, c'est... Ouais.
C'est une capitale, mais ça fait petit village, en fait. C'est vraiment bizarre.
C'est exactement la sensation qu'on en a quand on y va de l'étranger et quand on écoute des habitants d'Amsterdam. Clairement, c'est le ressenti. Quoi.
On avait la chance d'habiter dans un appartement d'un collègue à son oncle, un super appart, bon, qui n'avait pas été habité pendant quelques années, donc il y avait 3 cm de poussière partout. Mais on était sur le canal du Prince, à 3 minutes de la gare, enfin, on était super bien situés. On a eu quelques mois vraiment géniaux. Et j'ai trouvé un boulot assez vite, mais le boulot, il était pour une société américaine, pour un service français. Mais c'était assez loin d'Amsterdam, donc on a décidé de se rapprocher un peu de mon boulot. Mm-hmm. Sinon, ça faisait plus de 2 heures de train, c'était un peu long.
Ah oui, tu m'étonnes.
Donc, j'ai pris un appart en location pendant 6 mois, vers Amersfoort, donc c'est un peu plus au centre de la Hollande. Mm-hmm. Et après, on a décidé d'acheter un appart. Donc, c'était la première grosse décision. Donc, on était assez jeunes parce que Sania, en fait, elle a 5 ans moins que moi.
D'accord.
Donc, elle avait, quand je l'ai connue, juste 18 ans.
D'accord.
Je crois qu'elle avait 20, 21 ans quand elle a pris la décision d'acheter. En fait, ça se fait assez souvent en Hollande. Hein. Les locations sont assez difficiles à trouver. Donc, à l'époque, c'était plus avantageux d'acheter un truc.
D'accord, ok. Est-ce que pour acheter, vous avez dû vous protéger au niveau juridique, peut-être? Est-ce que l'engagement était simplement sur l'appartement ou est-ce que vous êtes engagé, vous deux aussi de votre côté?
Alors pour l'instant, à ce moment-là, il n'y avait pas encore le pacte, c'était pas encore reconnu en France, ou juste, et en tout cas pas le mariage. Et moi, je me voyais pas me marier, même si en Hollande c'était possible. On a juste fait un contrat pour l'appart.
D'accord.
Et à cette époque-là, c'était tout ce qu'on avait fait, ouais.
D'accord, ok.
J'ai oublié de dire, Sania, elle n'est pas hollandaise.
D'accord.
Elle est née en Bosnie-Herzégovine, elle est née à Sarajevo. Elle est venue en Hollande avec sa famille quand il y a eu la guerre.
D'accord.
Elle a la nationalité hollandaise, elle arrive assez jeune, donc elle a fait ses études ici, elle parle très très bien hollandais.
D'accord. Et alors ensuite, comment ça se passe? Donc vous emménagez dans cet appartement que vous avez acheté?
Voilà. Ma famille était au courant, hein. En fait, j'ai fait mon coming out en Irlande à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait nous rendre visite. Je leur présentais Sania et puis ça s'est fait comme ça naturellement. J'ai pas fait une grande annonce à un réunion de famille. je l'ai dit au fur et à mesure.
Et comment ils ont perçu ta famille puisque tu me dis qu'ils sont assez catholiques? Comment c'est passé?
Ça s'est passé assez bien. J'ai 3 sœurs et un petit frère. Eux, ils avaient déjà tous 2 enfants. Je pense que pour eux, c'était plus cette question d'enfant qui leur faisait peur, que j'ai pas cette chance de pouvoir être maman un jour. Moi, à l'époque, je m'étais jamais imaginée maman, donc j'aurais dit, si ça doit se faire, ça se fera. Moi, je m'étais jamais vraiment posé la question. J'étais tata et marraine, et je vivais super bien ce rôle de tata fofolle.
Tu profitais des enfants, de ce qu'il y avait de bon, et tu laissais un peu l'administratif et l'intendance aux parents.
Voilà, j'étais super contente d'être tata. J'étais tata 8 fois.
Ah oui.
Il y avait plein de gamins autour de nous dans les réunions famille et pour moi ça me suffisait.
Et Sania, du coup, elle, de son côté, au niveau de la parentalité, est-ce qu'elle s'était projetée? Je suppose que c'est pas simple non plus dans une famille qui est issue de Bosnie-Herzégovine. Je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ouvertures d'esprit parce que le chemin n'est pas encore fait.
Ouais, alors elle, contrairement à mon ex, elle a super vite annoncé à d'abord sa grand-mère et à sa mère qu'elle était avec moi. Ça m'a super surpris parce qu'avec mon couple d'avant, c'était tout l'opposé, quoi. Fallait qu'on vive dans le cachet et en parler, alors qu'elle avait tout de suite assumé, elle a tout de suite su que c'était moi, quoi.
Oui, elle t'a donné une vraie légitimité.
Voilà, donc ça m'a vachement aidée à faire le premier pas, moi aussi. Cette question d'enfance, la mère de Sania aussi, elle avait un peu peur de jamais être grand-mère. Mm-hmm. Les premières années, on a profité, hein, on a vécu notre vie de couple sans enfant, jusqu'en, je crois que j'ai eu 30 ans en 2018, donc juste après, juste un jour comme ça, on était en train de boire un coup dans un bar, et elle me dit... cette question d'enfant, vous voulez qu'on en parle un jour quand même. Elle, en fait, elle avait déjà 25 ans, trop envie d'en avoir.
D'accord. Et t'as réagi comment?
J'ai dit ok. J'ai dit, mais concrètement, on fait comment? Mais elle m'a dit, mais c'est trop facile en Hollande. Il n'y a pas de problème, je prends rendez-vous, il y a des cliniques partout.
Ah oui, elle était bien renseignée.
Ouais, elle avait commencé.
Et alors donc, en Hollande, c'est beaucoup plus facile. Vous avez effectivement l'accès à des cliniques facilement, simplement.
Voilà, on peut même le faire directement à l'hôpital. Il y a des hôpitaux qui font des inséminations sans problème. On voulait quand même passer par une structure dédiée, problème d'infertilité, on va dire. Donc, c'était une clinique à Leiden, donc c'est à peu près 1 heure de là où on habite.
D'accord.
On a allé à une soirée, faisait des soirées où ils exposaient un petit peu les différentes options avec soirée d'information. Et j'y suis allée et ça m'a ouvert les yeux d'un coup, quoi. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'options. Et puis, j'avais vu, il y avait des couples hétéros, il y avait des mamans solo, il y avait des couples de filles. Et toutes les petites questions que j'avais un peu dans ma tête sans être vraiment me les poser, ils avaient réponse à tout.
Ouais, c'est pas mal ces systèmes de réunions d'information. J'en ai déjà entendu parler. Alors, beaucoup plus dans le cadre de la GPA, mais je crois que ça commence à se développer en France aussi, puisque j'ai rencontré à mon micro aussi des personnes qui me disaient qu'ils avaient eu droit à des réunions d'information par le biais de cliniques étrangères.
Ouais.
Mais qui venaient en France. Je trouve que c'est vraiment bien parce que du coup, déjà parce que ça rend la relation un peu plus formelle, beaucoup moins informelle pour le coup, où il n'y a pas de visage associé à une personne.
Ouais.
Et puis, du coup, ça simplifie grandement les recherches.
Hein. Ouais, cette clinique, elle était assez reconnue. Lors de cette soirée, ils ont parlé des donneurs, donc le rôle du donneur, la place du donneur, tout ça. Moi, je ne m'étais jamais trop posé la question. La seule question qu'on s'était dit en rigolant à un repas, c'était si on a besoin de sperme un jour, où on va le trouver, quoi. Et mon frère, moi je donne à Sania, et le frère de Sania, moi je te donne à toi, comme ça, ils étaient déjà partis. Quoi.
D'accord.
Et on s'est dit, non, mais peut-être pas, on va peut-être pas penser à cette option-là, parce que ça me paraissait un peu compliqué.
Oui, c'est sûr.
Le tonton doit rester le tonton, et puis voilà.
Oui, voilà, quand on intègre la famille, c'est pas forcément simple après.
Non, c'était plus une
boutade.
Voilà, je pense.
D'accord. Et vous étiez projeté sur les méthodes que vous souhaitiez employer, ou sur qui porterait l'enfant? Ou c'est à ce moment-là, au moment de la réunion, où vous êtes posé des questions?
Sur qui porterait l'enfant, ça s'est posé sur moi en premier, parce que j'ai quand même 5 ans de plus et que j'approchais des 35 ans, 32, 33 j'avais à l'époque. Mm-hmm. Ça, c'était l'idée numéro 1. La marche à suivre, moi, je voulais le truc le plus naturel possible. Je voulais éviter les hormones, les fives, les trucs comme ça. Je voulais juste une insémination la plus basique possible.
intra-utérine sans stimulation.
C'est ça. Donc, on a pris un rendez-vous. Ils m'ont fait une première écho pour voir si tout allait bien. Non, avant ça, on a un petit peu parlé du donneur. Donc, en Hollande, on avait la possibilité de passer par une banque de sperme danoise, je crois.
Mm-hmm. Le Cryos, sûrement.
Ouais, sûrement. Donc là, il y avait catalogue, tout. Tu n'avais pas besoin de liste d'attente. Tu pouvais commander en direct. Mais ça nous paraissait assez cher.
D'accord.
Donc, on a décidé de se mettre sur une liste d'attente hollandaise. Alors, en Hollande, je ne sais pas si partout pareil dans tous les pays, mais les donneurs ne sont pas anonymes.
D'accord, ils sont semi-anonymes donc.
Ouais, ça veut dire que notre fille a 16 ans, elle peut avoir un petit passeport avec quelques infos. Et à 18 ans, elle peut essayer de le contacter.
D'accord, ok.
Ça, c'était important pour nous d'avoir accès à ses origines, une partie de tes origines. Pour moi, c'était important.
Oui, c'est clair que ça peut l'être, effectivement, et que c'est quand même une question qu'il faut soulever. La réflexion doit quand même bien peser pour savoir son désir, quoi, sur ce point-là.
Donc, on a pensé à ça. Donc, il y avait un an de liste d'attente.
Ah oui, d'accord, oui. Juste pour le don de sperme, mais du coup, c'est un
don
de sperme.
Donneur, pour avoir un donneur.
Voilà, ouais. Un donneur hollandais pour le coup.
C'était à l'époque. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est encore un an, mais c'était en 2003-2004.
D'accord. Et est-ce que tu sais si les Français ou les personnes étrangères ont droit d'accès aux donneurs hollandais ou si dans ce cas-là, comme dans d'autres pays, c'est forcément un accès au don de sperme par Cryos, enfin par les banques de sperme étrangères?
Je pourrais pas dire. Je pense que oui, mais peut-être qu'il faut être domicilié aux Pays-Bas quand même.
Ouais, voilà. C'est sur d'autres pays, c'est ça en fait. C'est que tu n'as pas accès aux dons de sperme des donneurs du pays.
J'imagine que c'est la même chose. Ouais.
Ouais, voilà. D'accord, ok. Donc vous, du coup, vous avez dû attendre un an alors?
Voilà. Donc on a un peu choisi un donneur. On n'avait pas énormément de critères, mais on voulait pas un blond aux yeux bleus parce que quand même on est toutes les deux châtains aux yeux foncés, quoi. Mm-hmm. Mais à part ça, on avait dit juste qu'il soit clean au niveau record médical et qu'il n'y ait pas de trucs bizarres. Mais bon, ça, c'est tout le temps le cas, j'imagine.
Oui, je suppose. Et donc là, c'est pareil, en fait. Vous aviez une sorte de catalogue avec les donneurs potentiels hollandais.
Ouais, non, même pas de catalogue. On a juste eu un entretien où il te pose quand même des questions vis-à-vis de ta famille, les antécédents familiaux, si la famille est OK avec notre relation, s'il n'y a pas de trucs bizarres, depuis combien de temps on est ensemble. On a eu un petit entretien comme ça quand même, où là aussi on a un peu décrit ce qu'on voulait du donneur. Et puis, ils nous ont dit à peu près, oui, il faudra attendre un an pour avoir les premiers échantillons. Mais pour notre deuxième enfant, si Sania voulait rentrer dans le processus, elle n'aurait pas besoin d'attendre un an non plus. Ça serait tout de suite en haut de la liste d'attente. Ça, c'était cool.
D'accord, ok.
Ouais.
D'accord. Mais par contre, vous pouviez avoir le même donneur pour le deuxième enfant?
Ouais.
Tu sais pas?
On pouvait, ouais.
D'accord.
Bon, il fallait qu'on leur dise dès le début, mais c'était une possibilité et c'est ce qu'on voulait aussi. Donc, ça, c'était trop bien.
Ouais, c'est top. C'est top, c'est top. Et alors, du coup, une fois que vous avez établi tout ça, est-ce que vous pouviez continuer le process, le temps d'attente des échantillons ou pas?
Alors, dans ce process-là, en fait, ils se sont rendus compte à la première écho que j'avais un fibrome.
D'accord.
Qui était assez gros déjà, donc ils préféraient l'enlever pour éviter tout risque. De toute façon, j'avais le temps, j'avais un an devant moi, donc pour prendre toutes les précautions possibles pour me le faire enlever. Donc, j'ai eu une petite intervention au mois d'août.
D'accord.
2011. Et en janvier 2012... 1er janvier, j'ai arrêté de fumer parce que je savais que les premières IUI allaient arriver. Et au mois de mars, j'ai eu ma première insémination.
D'accord.
Donc, basique.
Donc, la clinique vous a appelé pour vous dire que c'était bon, ils avaient un donneur.
Voilà, donc j'ai commencé. Donc, j'ai fait mes petits tests d'ovulation. Le jour où c'était positif, on allait à la clinique. Ça a duré 2 minutes. Je suis repartie. J'ai attendu 2 semaines.
Ouais.
Et c'était négatif, le premier.
D'accord, ok. Bon, ce qui est assez fréquent finalement.
Voilà.
D'accord.
Donc, j'étais déçue bien sûr, mais je m'étais préparée un petit peu psychologiquement.
Oui.
Bon, faut savoir que ma mère était très fertile, mes sœurs, ça s'est toujours très bien passé généralement. Je faisais pas trop de soucis, j'avais eu mes règles super jeunes. J'avais toujours été réglée tous les mois. Pas un mois où j'avais pas eu mes règles, donc je me faisais vraiment pas de soucis. J'ai eu la chance que la deuxième marche.
D'accord, donc vous avez pu vous relancer directement sur le cycle suivant.
Ouais.
D'accord, avec le même donneur du coup.
Même donneur.
D'accord, ok, impeccable.
Donc, la deuxième, je l'ai faite en avril et ça a été positif.
Ah, c'est super.
Donc trop contente. J'ai eu la réponse que c'était positif, genre 2-3 jours avant qu'on fasse un petit voyage qu'on avait prévu toutes les deux en Crète.
D'accord.
Je suis allée en Crète et j'ai pas pu boire d'alcool, rien.
Ouais, mais tu devais être trop contente.
Sonia, elle buvait tous mes petits verres d'ouzo à ma place. C'était trop bien.
Ouais, tu m'étonnes. C'était le bon moment.
Ouais, on était vraiment prêtes mentalement. Dans notre vie, c'était stable niveau boulot. Enfin, franchement, c'était super.
Et je suppose qu'en Hollande, quand vous arrivez et que vous demandez un accès comme ça à la PMA en tant que couple de femmes, ils se posent même pas la question, en fait. Enfin, c'est une évidence pour eux.
Ouais, c'était très pro, c'était tout le temps normal, quoi. Tu te présentes à la clinique, tu rentres, tu fais ton insémination, ils te montrent la petite pipette, ben voilà, c'est bien votre nom, il y en a 300 millions dedans, je ne sais pas combien. Oui. C'est des top swimmers, et puis voilà quoi.
D'accord, et au niveau de la grossesse ?
Ma grossesse, ben, ça s'est super bien passé, je n'ai pas été malade une seule fois, c'était vraiment ma hantise, parce que j'ai une phobie de vomir, je ne sais pas pourquoi.
Ben, ça, on est nombreux, hein, je crois.
Mais ouais, pas une seule fois. Bon, j'ai été un petit peu barbouillée, certaines nuits quand je me réveillais, mais sinon non, rien. J'ai toujours un petit peu dans le coin de ma tête la peur de faire une fausse couche, hein, je pense que.
Ouais, comme tout, hein, je pense, effectivement.
Ça s'est vraiment bien passé. Bon, l'accouchement était un peu compliqué parce que j'ai dû être déclenchée.
D'accord.
Parce qu'elle voulait pas sortir, en fait. C'est bien au chaud. J'ai eu de la chance parce que je faisais partie d'un programme où, des fois, en Hollande, ils attendent jusqu'à 2 semaines après le terme pour déclencher, ce qui est énorme.
D'accord. Ouais, c'est long.
C'est énorme. Mais je faisais partie d'un genre de test où moi, j'ai pu déclencher au bout d'une semaine, donc 7 jours après le terme.
D'accord.
Donc, Elena est née le 29 janvier 2013.
D'accord. Et comment ça s'est passé pour vous après, en Hollande? Je ne sais pas si, du coup, vous étiez reconnues toutes les deux comme maman, si vous avez dû faire des démarches.
Alors, oui, on avait fait des démarches. On s'était renseigné au niveau légal, parce que Sania, en fait, a dû adopter Elena avant sa naissance. On avait commencé les procédures d'adoption avant même qu'elle soit née, pour avoir de problème. Donc là, on a dû choisir le nom de famille, parce que pour la filiation, après, il faut qu'ils aient le même nom, les enfants. Donc ça a été choisi que ce soit mon nom.
D'accord.
C'était un peu dur pour Sania, parce que son nom, c'est quelque chose qui est très important pour elle.
Oui.
Surtout vis-à-vis de ses racines et de son passé. Donc ça, c'était un peu dur, mais bon, après, il fallait faire un choix. Donc on a trouvé une super avocate. Ça, c'était un peu compliqué, parce qu'on habite quand même dans un petit village qui n'est pas toujours à la pointe des dernières régulations. Donc... on a trouvé une avocate spécialisée donc dans le droit des familles LGBT sur Amsterdam. Elle gérait plein de dossiers comme ça, donc elle nous a dit qu'on avait besoin de tel et tel document et que normalement on n'aurait pas besoin de faire ça pour notre deuxième enfant, que ça serait dans les années qui suivent automatique.
D'accord, automatique de par une loi qui allait arriver, voilà, ou automatique, ouais. Parce que oh, d'accord.
Donc pour la partie néerlandaise, on était toutes les deux les mamans d'Yelena sur le certificat de naissance. C'est Sania qui allait la déclarer à la mairie, il y a pas eu de problème.
D'accord, vous n'avez pas besoin de faire une procédure d'adoption.
Non, juste Sania, pour la Hollande.
Oui, voilà, Sania pour la Hollande, oui, pardon, excuse-moi.
Non, moi je suis allée à l'ambassade de France la déclarer, donc pour qu'elle ait la nationalité française. J'ai eu mon livret de famille avec Elena, mais sans vraiment poser la question pour Sania par rapport au livret de famille à l'époque, puisqu'on n'était pas, okay. Pas paxés, on n'est pas mariés. Donc,
oui, voilà, c'est ce que j'avais
dit. Je m'étais dit, on verra plus tard. D'accord. Ce qui était important pour nous, c'est que voilà, qu'au niveau de la Hollande, on soit reconnus toutes les deux en tant que mère.
Oui, c'était votre pays d'habitation, donc...
Oui, voilà.
Ok, et donc par contre, donc en Hollande, pour pouvoir être reconnue comme deuxième maman, donc pour l'adoption de Sania, il n'y avait pas besoin que vous soyez mariée.
Non.
D'accord, ok. Donc la vie s'organise avec Elena,
ouais.
Tranquillement. Comment vous en arrivez, parce que vous aviez déjà projeté d'avoir plusieurs enfants, puisque vous aviez fait déjà les demandes pour garder le même donneur. Voilà. À quel moment vous vous dites, c'est bon, on se lance, on est parti pour un deuxième?
Assez vite, en fait, parce qu'on voulait qu'elles aient pas trop d'écart. Donc l'été de ses 1 an, donc on était en juillet 2014, donc Sania a commencé. C'était cool parce qu'on n'avait pas besoin de repasser par des listes d'attente. On les a juste contactés en disant on veut reprendre le processus. Mm-hmm. Elle a fait 3 essais coup sur coup parce que ça n'a pas marché. En juillet, août et septembre 2014, ça n'a pas trop marché. Donc, ils voulaient faire un petit contrôle en janvier de l'année d'après parce que c'est un peu le standard. Après 3 essais, après 6 essais, après 9 essais, ils changent un peu les protocoles.
D'accord, ok.
Mais entre-temps, elle a perdu sa grand-mère. Mm-hmm. Et puis, elle a eu des problèmes au niveau boulot aussi. Mentalement, ce n'était pas l'idéal. Donc, on a fait une année de pause.
D'accord.
En 2016, on a décidé de se paxer. Mm-hmm. En Hollande, ça s'appelle Partnerschap.
D'accord.
C'est l'équivalent du pax, en fait. D'accord, ok. Ça s'était fait en mairie assez rapidement.
Ça a une valeur en France ou tu dois aussi te repaxer en France?
Celui-là, non, ça n'a pas de valeur en France. Je l'ai su en fait après.
D'accord.
C'est pas reconnu. Enfin, en tout cas, par l'ambassade, c'était pas reconnu. Il fallait qu'on soit marié.
D'accord, ok.
Mais au niveau des lois, en Hollande, c'est exactement la même chose. Que tu sois marié ou que tu aies ce truc-là, au niveau légal pour le couple, c'est la même chose.
D'accord.
Donc en fait, on aurait dû se marier.
Dès le départ.
Dès le départ, ça aurait été plus simple. Mais bon.
D'accord. Donc là, on est en 2015, c'est toujours Sania qui se relance?
Ouais.
D'accord.
Donc après notre PACS, on a fait la reprise des IUI, donc en juillet. Elle a fait sa quatrième tentative qui n'a pas marché. En août, la cinquième qui n'a pas non plus marché. En octobre, elle a fait la sixième qui n'a pas marché, mais elle savait déjà que ça n'allait pas marcher parce que elle était persuadée que, bah, que c'était trop tard, qu'elle avait déjà
ovulé.
Ouais.
D'accord.
Mais bon, il y a un petit malentendu à la clinique, donc ils avaient déjà tout préparé. On est arrivé, donc on a un petit peu perdu le.
Ouais, le bénéfice. C'était
ça. Ouais. Quoi. C'était dommage.
Mmh, d'accord.
Donc là, elle en avait commencé, ça commence à devenir compliqué.
Oui, forcément.
Parce que bon, après, elle s'en voulait parce que moi, ça avait marché super vite et elle, non, et ça faisait déjà presque 3 ans qu'on était dans le processus, donc. Ça commençait à être un peu lourd, là. Mmh. En 2017, on avait fait un autre voyage. Parce qu'après octobre, on a arrêté presque un an.
Parce que, du coup, vous étiez à la sixième tentative. Donc, ils ont refait des examens, c'est ça? Tu me disais, tous les 3 tentatives, ils vous font faire des examens de vérification?
Ouais. Donc, après la sixième, normalement, il faut commencer par des hormones.
D'accord. Donc, oui, là, on est...
Donc, jusqu'à 6, c'est sans hormones. De 6 à 9, c'est avec hormones. Et après, les 3 dernières tentatives, normalement, c'est des FIV.
D'accord, ok. Donc, du coup, vous faites votre petit voyage en 2017.
Voilà, on en rediscute. Elle est encore ok pour repartir. L'été, on est en France. Malheureusement, elle tombe malade. Elle a des amygdales qui s'infectent, en fait.
D'accord.
C'est au moment où on doit avoir une consultation par téléphone, donc pendant nos vacances. On va définir un petit peu du plan. Et là, ils lui disent, ben non, tu peux pas parce que... Elle doit se faire opérer, en fait, en revenant en Hollande, elle doit se faire enlever les amygdales.
D'accord, au risque, oui.
Voilà, anesthésie générale, donc le temps que tous les produits soient évacués, il vaut mieux pas prendre trop de risques. Mm-hmm. Donc ça rajoute 3 mois.
Oui, 3 mois, oui.
En janvier, elle fait la 7e, en janvier 2018.
Avec les hormones?
Non, encore sans les hormones.
D'accord, ok.
Ben, ça marche pas. Donc elle fait une consultation pour discuter du protocole des hormones. Elle commence les hormones en mars. Mm-hmm. Le 1er mai, elle fait sa 8e tentative avec les hormones. À ce moment-là, on commence à stresser un peu parce qu'il ne nous reste plus qu'un essai avec ce donneur-là qu'on
oui,
veut,
tout à fait. Oui, oui,
en plus de la 8e.
Ah oui, forcément, au bout d'un moment, vous arrivez au bout du stock.
Ouais, et donc là, on commence à se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'essaye moi encore une fois ou pas? Et en fait, non, elle essaye quand même avec les hormones. Et donc, 1er mai, elle fait sa 8e. On part en voyage en Sicile. Mm-hmm. Et en fait, ça s'est fait pendant notre voyage en Sicile.
Ah, super. Les voyages ont dit un truc pour vous, hein,
ouais.
Sur le voyage.
Et on revient de voyage et elle fait son test. Mm-hmm. Au début, elle a vraiment peur de faire le test de grossesse.
Ouais, tu m'étonnes.
Mais elle voit qu'elle a un tout petit peu en retard. Je crois qu'elle a 2-3 jours de retard. Je lui dis, bah, vas-y, fais-le. Et elle le fait, elle le pose sur la table. Et 2 minutes après, c'est bon, le test est positif.
Ah, super. Vous avez dû être tellement soulagée.
Oh, ouais, c'était trop bien.
Ouais, tu m'étonnes.
Comme quoi, il faut être bien vraiment dans sa tête et prêt.
Ouais, c'est sûr.
Entre-temps, on avait changé de maison, donc on avait une chambre pour le bébé. Enfin, c'est des trucs que psychologiquement, tu as peut-être...
Ça peut jouer.
Voilà, donc on l'a annoncé à ma famille au mois de juin. Mm-hmm. Parce que j'avais fait venir tout le monde en Hollande pour fêter mes 40 ans.
D'accord.
J'avais loué une ferme avec des lits superposés.
Non, ça devait être top.
On était 30. Que là, on a fait un grand cercle, on se tenait tous la main. On a un truc à vous annoncer. Enceinte.
Ils l'attendaient.
Ouais, c'était un tout petit peu tôt parce qu'on l'a annoncé, je crois, le samedi et on devait faire la première vraie écho avec le gynécologue le lundi. Donc, on avait un petit peu peur de jinxer le truc, mais
oui,
finalement,
ouais.
Non.
Ça s'est bien passé.
Ouais.
Ah, super. Et donc, Olivia arrive?
Ben, Olivia arrive le 25 janvier. Le tout fou, c'est qu'on a exactement eu le même terme, Tania et moi.
Ah, c'est drôle, ça.
6 ans d'écart.
Ouais, c'est drôle, ça.
On était prévus toutes les deux pour le 20. Mm-hmm. Moi j'ai accouché le 29, Sanya l'a accouché le 25.
Et, oui, donc, et vous avez toutes les deux dépassé le terme.
Ouais, et même type d'accouchement en plus.
Ah oui, déclenché du coup.
Déclenché aussi, et aussi sorti avec la ventouse.
D'accord,
sauf
okay.
Que pour Olivia ça a été un peu plus compliqué. Mm-hmm. Les premiers jours elle a dû être intubée. Après l'accouchement, ils donnent des notes au moment où le bébé sort.
Oui.
Les premières minutes c'était 10-10, pas de problème. Mm-hmm. Mais au bout d'un moment elle est devenue toute violette.
Ouh.
Sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc, c'était la grosse crise.
Oh, oui, tu m'étonnes.
Ils ont dû un peu l'aider à reprendre ses esprits parce que je pense qu'elle aussi, elle n'était pas prête à sortir.
Oui, c'est ça. Il fallait la laisser atterrir, la pauvre.
Ouais. Mais bon, les premiers jours pour Sanya, c'était difficile, quoi.
Bah oui, je me doute.
Mais voilà, Olivia est née le 25 janvier.
Donc, 2019.
Voilà.
Donc là, elle a presque 2 ans.
C'est ça.
D'accord, petit bout. Et alors, tu me disais que ça n'avait pas été la même au niveau des papiers pour Olivia?
Voilà, donc c'est ça le problème en fait que je vis actuellement. Mm-hmm. C'est que donc je l'avais pré-reconnue en fait au mois d'octobre avant qu'elle naisse. Mm-hmm. Donc on avait tout fait au niveau hollandais pour qu'il n'y ait pas de problème. Filiation, donc j'avais pas besoin de l'adopter en Hollande. Mm-hmm. J'étais sa mère automatiquement. Là, mon nom. Mm-hmm. Donc sur son certificat de naissance, il y a donc Olivia Bonin. Mm-hmm. avec maman qui a donné naissance, Sanya Hugo. Mm-hmm. Et donc la maman dont elle porte le nom, Hélène Onin, et a même mon nom, la personne qui l'a reconnue à la mairie, donc c'est moi, mm-hmm. qui a deux fois mon nom sur son certificat de naissance.
Oui, et pour autant ?
Et pour autant, bah, la France ne me reconnaît pas comme étant sa mère.
D'accord, et pourquoi donc ? Parce que tu n'es pas mariée avec Sanya, c'est ça ?
Alors le mariage, c'est pas ça la question. Entre-temps, on a fait valider le mariage. Mm-hmm. Et à l'époque, ce qu'ils ont dit dans la lettre qui a pris 6 mois pour m'arriver ?
La France, oui.
C'est que je n'apportais pas la preuve que j'avais donné naissance à l'enfant.
Oui, forcément, tu n'as pas donné naissance à l'enfant.
Oui, j'ai jamais dit que je voulais ça. C'était une grosse baffe.
Bah oui, tu m'étonnes. Bon, après, a priori, vous êtes reconnus. Enfin, il n'y a pas de problème pour la Hollande.
Non.
Bon, ok. C'est vraiment la France qui pose problème.
Ouais.
Et tu sais si c'est solutionnable ou pas ?
Alors, ben, j'ai pris les conseils d'une avocate mmh. qui a un bureau en Hollande et en France. Mmh. Donc elle nous avait conseillé dès le début de modifier notre pax hollandais en mariage. Donc ça, oui. on a fait. Donc j'ai fait valider ça par les instances françaises. Donc maintenant, on a un livret de famille avec Yelena pour moi mm-hmm. et mon livret de famille avec Sanya. Mm-hmm. Mais Olivia, oui, c'est toujours en attente parce que j'ai renvoyé un dossier donc via mon avocate en février l'année dernière, cette année, juste avant le Covid.
D'accord, oui, bon alors ça n'aide pas sur les délais, ouais.
ouais. Donc le même, hein, c'est juste transcription de l'acte de naissance. Mmh. Pour moi, transcription, bah, c'est tu retranscris ce que le pays a déjà établi. Bah, en fait, non. On va voir si ça marche. Parce qu'en Angleterre, il y a un couple de femmes pour lequel ça a été reconnu. Il y a eu un arrêt dans la cour de cassation qui était passé en décembre l'année dernière. Mmh. Mon avocate, elle s'est appuyée sur ce décret-là pour voir si ça passe. J'ai pas eu de nouvelles depuis le mois de mars du consulat, donc je les ai relancées fin août. Et réponse très basique, hein, où ils disaient qu'ils attendaient de nouvelles instructions du procureur de la République.
D'accord, ouais, bon après, en ce moment, les délais sont hyper allongés, hein, donc bon, c'est long.
Du au Covid.
C'est pas étonnant. Oui, voilà, c'est ça. Alors déjà, il y a des personnes que j'ai interviewées qui me disaient qu'elles étaient sur des délais hors Covid hein, de 18 mois, donc entre le dépôt du dossier et l'adoption. Donc je te laisse imaginer sur un Covid, quoi.
Ouais. Mais en fait, moi, je comprends hein, la logique. Mais à partir d'un moment où un pays européen a donné son... Si c'est valide dans le pays de l'enfant, enfin, s'il n'a pas été défini, que son acte de naissance a été trafiqué ou je ne sais quoi.
Oui, logiquement, la transcription devrait être automatique.
Voilà, on demande juste qu'il soit retranscrit. On ne demande pas qu'il y ait un jugement ou autre. Il faut juste que la France reconnaisse que c'est ma fille. Moi, je suis française. Sa sœur, elle est française. Elle a mon nom. Enfin, pour le niveau de la filiation, ça me choque.
Oui, non, mais je comprends complètement.
Il faut juste que je sois patiente. Mais bon, elle va avoir 2 ans et ça commence vraiment à être
long.
Au tout début, j'en dormais pas. J'avais des sueurs froides. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, maintenant, ça va mieux parce que je me dis, en Hollande, je suis sa mère. Ça se fera de toute façon, il faut juste que je
oui,
sois...
Oui, voilà, que ça va se résoudre.
Toute ma famille me dit, attends, les choses sont en train de bouger, il y a l'Assemblée qui a voté la loi pour l'accès à la PMA, ça va... ils vont être obligés de faire pareil pour la filiation.
Oui, oui, non, mais c'est clair, ça va se résoudre, ça va avancer, mais bon, c'est sûr que quand on a un peu les fesses pour être poli entre deux chaises, c'est pas confortable.
Oui, et puis moi, je suis aux Pays-Bas, j'habite pas en France, donc je me dis si je dois aller voir un notaire pour que Sanya donne son accord, elle parle pas français, que je puisse adopter sa fille. Enfin, ça me paraît tellement compliqué, toute cette procédure.
Oui, bah, c'est vrai que c'est par là qu'on doit passer, effectivement, en France. On passe par le notaire.
Et puis, il y a tellement de documents à donner. Enfin, ouais. Moi, mon acte de naissance, limite, ça va, mais Sanya... Son acte de naissance, c'est pas si simple, il faut le faire traduire. C'est un document qu'elle peut même plus avoir en version originale, puisque ben, le pays où elle est née n'existe plus. La Yougoslavie n'existe plus, donc c'est...
Ah, c'est compliqué.
C'est des scans de documents qui... Ouais, c'est un peu plus compliqué.
Oui, bah oui, je me doute.
Mais on a confiance, un jour.
C'est le principal. C'est le principal. Et je voulais juste rebondir sur, pardon, je passe complètement du coq à l'âne, mais on a parlé pas mal de la procédure, de comment ça fonctionne aux Pays-Bas. Par contre, on n'a pas parlé de l'aspect financier. Et mine ouais. de rien, je suppose, alors évidemment, je pense qu'il y a un aspect financier pour les habitants des Pays-Bas et une procédure, enfin voilà, il y a un aspect financier qui est différent. Enfin, je suppose que quand tu es étranger, bon, tu payes beaucoup plus de choses, mais comment ça se ouais. passe pour vous ?
Alors, tout ce qui était écho, moi, mon opération pour le fibrome, tout ça, c'est pris en charge par ma mutuelle.
D'accord.
J'ai rien payé de spécial. On a tous une franchise hein, par année. Bon, faut dire que la mutuelle en Hollande, c'est un peu cher. Je crois que c'est dans les 150 euros par mois, quelque chose comme ça.
D'accord, oui.
Avec une franchise, ça dépend. Plus ta franchise est élevée, moins tu payes. Enfin.
D'accord.
Mais bon, c'est dans les 200-300 €. Et donc, tout ça, c'était pris en charge. Et après, au niveau des inséminations, c'était, je crois que c'était 220 € par insémination.
D'accord,
c'est
ok.
C'est pas énorme.
Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. Et pour les paillettes de sperme?
C'était inclus.
Ah ouais. Oui. Donc, bon, après, je suppose que, encore une fois, je le redis parce que faut pas qu'on s'attache à ça, nous, en France. Je pense qu'il y a d'autres frais qui s'ajoutent quand on vient de l'étranger, mais c'est relativement accessible, en tout cas.
Ah oui, moi, j'ai pas eu besoin de faire de crédit. Enfin, on faisait attention le mois où on faisait des inséminations, et puis voilà, quoi. C'était pas.
Oui, oui, oui.
Donc... J'ai écouté l'épisode, j'ai oublié leur nom, mais des deux filles qui sont aux US.
Oui. Camille et Olivia.
Voilà, Camille et Olivia. Et, truc de fou, quoi.
C'est dingue, hein. C'est ouais. dingue. C'est...
Donc ouais. Non, ouais. Pour ça, ça va, c'était gérable. Puis un bébé, ça coûte tellement cher déjà rien qu'après, quand le bébé arrive.
Oui, c'est sûr.
Déjà pour le faire.
Hein. C'est sûr.
Bon, après, il y a les frais d'avocat là, pour Yelena, c'était 1 000 € pour l'adoption.
D'accord. Puis bon, tu as ceux actuels pour l'adoption d'Olivia.
Ah bah, ça y est, j'ai déjà payé. En fait, c'était pour le courrier, c'était ouais. 400-500 €. Je l'avais eu deux, trois fois au téléphone. Et puis, bon, elle m'a dit, hein, le courrier, il n'y a rien qui est garanti. Donc, bon, si après le courrier, ça s'avère négatif et c'est refusé, je serais peut-être quand même obligée de passer par une procédure d'adoption.
Oui, ouais, complètement.
Même si j'espère pas avoir à passer par là, parce que dans ma tête, c'est pas logique. C'est pourquoi j'adopterais ma fille, parce que déjà, officiellement, c'est déjà ma fille.
Oui, mais c'est vrai qu'en France, on adopte nos propres enfants.
Oui, c'est fou.
C'est bien là-dessus qu'on essaye de faire ouais. avancer les choses. Et alors, je vais te poser les questions que je pose régulièrement en fin d'épisode. Est-ce que pour toi, un enfant peut être heureux avec deux mamans, particulièrement aux Pays-Bas?
Oui, parce qu'aux Pays-Bas, c'est déjà quelque chose qui n'est pas forcément spécial. Dans la classe de ma fille, cette année, elle a un petit copain de sa classe. Ils sont 20 dans sa classe et il a aussi deux mamans.
Oui.
Donc, quand ils se sont présentés en début d'année, il a dit « Ouais, moi, je m'appelle machin, j'ai deux mamans. » Et Yelena l'a crié « Ah, ben moi aussi, j'ai deux mamans !» Et la prof, elle les a regardées, elle a dit « Oh, c'est super !»
Ouais, c'est génial, franchement, c'est top. Je rêve que ça arrive un jour en France aussi.
Ouais. Et tous les élèves « Oh, c'est super et tout !» Et je me rappelle, Yelena, à la crèche, elle avait 2-3 ans. Un jour, on vient toutes les deux en même temps, Sanya et moi, la récupérer. Et elle a une petite copine de la crèche qui nous regarde, elle dit « Mais t'as deux mamans ?» Et Yelena dit « Bah oui, j'ai deux mamans. »« Oh, mais t'as trop de chance, moi aussi j'aimerais trop avoir deux mamans.
» Oh, c'est chou.
Trop cool. Donc, non, honnêtement, tant qu'il y a de l'amour et que l'enfant se sent voulu, je pense que...
Ils sont forcément... Voilà, chez nous, ils sont très, très désirés. Voilà. Donc, nos enfants sont heureux. Et ma dernière question sera, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
D'être en bonne santé.
Évidemment.
Pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai tout ce qu'il nous faut à notre bonheur. Mmh. Oui, jusque la France peut-être
se bouge.
Bah, accepte le fait que Olivia est la sœur de Yelena et que forcément, si c'est pas vis-à-vis de moi, qu'elle reconnaisse au moins que vis-à-vis de sa sœur, c'est pas possible, quoi. Mmh. Que cette petite étape qui reste un petit peu encore difficile pour moi
à franchir. Ouais. Non, mais je te souhaite et je vous le souhaite hein, que ça. Et puis bon, ça va se solutionner de façon certaine, j'espère plutôt à court terme. Mais bon, enfin voilà, il n'y a pas de
raison. Oui, je garde espoir. Les choses sont en train de changer tellement vite et tellement dans le bon sens que ça peut être que positif.
Oui, je pense aussi. Je pense aussi.
Ouais.
En tout cas, je te remercie beaucoup, Hélène, de t'être rendue disponible aujourd'hui pour pouvoir évoquer la PMA aux Pays-Bas.
Avec plaisir.
C'est vrai que c'est un pays, comme je te le disais au départ, qui n'est pas forcément notre pays de première intention, parce que déjà, il est un peu plus loin, mais en plus de ça, je pense qu'on n'a effectivement pas, pour le coup, de cliniques qui viennent militer en France depuis les Pays-Bas pour nous proposer leurs services. Donc, évidemment, on ne pense pas à ces pays-là.
En tant qu'expatriée aux Pays-Bas, je vous conseille, c'est vraiment un pays super. Pour les enfants, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour eux et pour la qualité de vie. Bon, le temps, c'est pas toujours magnifique parce que je viens du sud de la France, donc j'ai toujours du mal avec les hivers un peu longs, mais...
Oui, je m'étonne. Non, mais c'est clair que les Pays-Bas, ils sont, ça reste un pays nordique. Alors, c'est à la limite de la Scandinavie, on n'y est pas, mais bon, on est quand même pas loin et on est sur un état d'esprit qui est
ouais, l'ouverture différent. D'esprit, c'est quand même quelque chose qui est reconnu ici, ouais.
Voilà. Tu vas nous donner envie.
Bah, venez pour les vacances, déjà, si vous voulez.
C'est clair. C'est déjà pour les vacances, c'est chouette.
Merci à toi.
Je te remercie beaucoup, Hélène. À bientôt.
Sois bien. Salut.
Merci. Salut. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. Je vous reprends et j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Une des questions majeures de la nouvelle loi bioéthique est justement celle de la filiation directe. Il est temps d'agir pour que nos familles ne se retrouvent plus dans des situations aussi absurdes et soient sécurisées. Allez les têtes pensantes, députés et sénateurs, la société est prête depuis bien plus longtemps que vous. Agissez et prenez vos responsabilités, nous existons déjà. Je sais que nombre d'entre vous se retrouvent dans la même situation qu'Hélène et Sania et je vous souhaite tout plein de courage. Vous connaissez maintenant ma petite ritournelle de fin d'épisode. Vous savez aussi le travail et le cœur que je mets dans ce podcast. Alors si ce podcast vous a plu, si cet épisode vous a parlé, si cet épisode peut aider, surtout n'hésitez pas à partager le podcast, car plus vous le partagerez et plus nous gagnerons en visibilité. Je pense que vraiment le chemin, il est là en ce moment. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, surtout pas, à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à me retrouver sur le compte Instagram du podcast @lesenfantsvontbienpodcast pour qu'on continue la discussion. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.